Il est 8h.
Il va falloir changer tous les plannings, regarder qui peut télétravailler, qui ne peut pas. 2 jours pour organiser tous les plannings de 50 personnes. Là où, en général, nos collaborateurs ont leur planning 15 jours en avance.
À tous les Français, mobilisation et adaptation générale. Les écoles ferment, les parents doivent télétravailler et les entreprises s'organiser. Carburant, trafic routier, transport en commun, les chiffres qu'Europe 1 a obtenus montrent à quel point les consignes de prudence n'avaient pas été suivies. Et puis, dans ce journal, les Américains qui regardent moins la télévision qu'il y a quelques mois, faut dire que la vedette du petit écran n'est plus là, un certain Donald Trump. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Les mesures annoncées par le président seront-elles efficaces? Va-t-on voir vraiment le bout du tunnel à la mi-mai? Mon invité, alors, il ne fait pas dans la langue de bois, on va le voir dans quelques instants. C'est l'épidémiologiste et médecin en santé publique Martin Blachier. Rendez-vous à 8h15.
Juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1, il est 8h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Quoi qu'il en dise, Emmanuel Macron a fait tomber un totem hier soir. Les écoles restées ouvertes, une singularité, une fierté française, ça ne pouvait plus tenir. Pas plus que se contenter d'appeler chacun à un comportement exemplaire.
Croire en la responsabilité des Français, ça n'est jamais un pari.
Si ce n'était pas un pari, c'était un vœu, une demande adressée aux Français. Mais on va le voir avec les données, les faits irréfutables qu'Europe 1 a récoltés. Cet appel à la prudence n'avait pas été entendu.
Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les décisions annoncées hier soir ne sont pas dues qu'aux chiffres sanitaires qu'on entend souvent.
Oui, il y a notamment 2 autres indicateurs qui ont pesé dans la balance. D'abord la fréquentation du réseau routier. Selon une note interministérielle transmise à l'Élysée, le trafic national était identique la semaine dernière à celui observé en temps normal. Et puis, il y a la consommation de carburant un tout petit peu en dessous de la norme en ce moment. C'est aussi le signe de déplacement trop fréquent et la preuve que le télétravail volontaire ne prend pas. Une entreprise sur 6 n'est pas en règle et ça se voit dans les transports.
Et alors ce qui est frappant Clément, c'est que ce que vous nous dites, c'est valable aussi dans les 19 départements déjà soumis à des mesures de restriction.
Oui, et c'est même encore plus frappant en fait. Prenez l'Île-de-France par exemple. Si on regarde les données de déplacement collectées par Google Maps, les trajets vers les lieux de travail y sont actuellement inférieurs de 35% à un jour normal. C'était moins 50% lors du deuxième confinement en octobre. Même constat d'échec dans d'autres villes concernées par les restrictions comme Lille, Rouen et Nice. On se déplace en voiture, mais on prend aussi trop les transports en commun, lieu de brassage du virus. En Île-de-France, la fréquentation des trains et métros se situe à 45% du niveau habituel. C'est 10 points de plus que lors du deuxième confinement. Et c'est pour ça qu'à partir de lundi, les contrôles sur les routes et dans les gares seront renforcés.
Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1. On entend avec vos informations qu'il y avait de la marge en termes de télétravail.
Oui, la fermeture des écoles pour 3 semaines, des collèges et des lycées pour 4 semaines oblige des millions de parents à s'y résoudre au télétravail et des centaines de milliers d'entreprises à s'adapter, comme cette société Euris, 50 salariés dans l'Essonne. Olivier Samin.
Systématiser le télétravail, on va savoir faire, dit Alexandre Moret-Bourny. 75% de ses salariés fonctionnent déjà comme ça. La question sensible, c'est la fermeture des écoles et les problèmes qui en découlent pour certains parents. Le patron s'attend à une fin de semaine compliquée.
La problématique, elle est surtout sur les gens qui ont des enfants en crèche et à la petite école. Les collégiens et les lycéens arrivent à se gérer, mais il va falloir changer tous les plannings, regarder personne par personne qui peut télétravailler, qui ne peut pas. Donc on va avoir 2 jours pour organiser tous les plannings de 50 personnes pour la semaine prochaine, là où en général nos collaborateurs ont leur planning 15 jours en avance.
Alexandre Moret-Bourny se doute bien que dans le mois qui vient, la productivité de son entreprise va fléchir. Mais il garde le moral. Avril 2021 sera de toute façon meilleur qu'avril 2020.
Je suis plus serein que l'année dernière. On est dans le connu, on est dans le déjà vu. J'ai le sentiment qu'on en a pour un mois et demi encore de difficile et qu'après, on pourrait voir un petit peu le bout du tunnel.
La nouveauté cette fois-ci, dit-il, c'est qu'on a un calendrier et ça change tout.
Il y a donc les écoles qui ferment et il y a ces restrictions que l'Île-de-France et les Hauts-de-France avaient inaugurées à la mi-mars. Toute la métropole bascule.
Déplacement interdit entre régions avec une tolérance jusqu'au soir du lundi de Pâques et un total désormais de 150 000 commerces obligés de fermer. Ce nouveau confinement va être terrible, ce doit être le dernier, commente Geoffroy Roux-de-Bézieux, président du MEDEF. Ce sont à présent 11 milliards d'euros d'aides publiques qui sont nécessaires par mois. Et pour Emmanuel Macron, il y a une clé pour renouer avec la vie. Selon ce sont ces termes. La vaccination donc, avec le calendrier qu'il confirme. Tous les adultes qui le souhaitent pourront avoir été vaccinés d'ici la fin de l'été. été. Concrètement, les 60 à 70 ans pourront prendre rendez-vous à partir du 16 avril, les 50-60 ans à partir du 15 mai et les moins de 50 ans à partir de la mi-juin. Encore faut-il qu'il n'y ait plus de mauvaises nouvelles et plus de retard de livraison.
L'enjeu est stratégique politiquement en vue de 2022, bien sûr, comme nous le disait Louis Dragnel dans le journal de 7h.
D'où l'importance des vaccinodromes pour aller vite. Comment s'y prépare du côté de Lyon, Jean-Luc Bougeon?
C'est ce qui s'appelle vacciner en masse. Durant les trois jours du week-end de Pâques, le Groupama Stadium va se transformer en vaccinodrome géant pour une opération coup de poing, explique Philippe Guetta de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes.
Notre objectif, c'est de vacciner 9000 personnes sur les trois jours. On a obtenu justement des doses supplémentaires pour vacciner nos concitoyens le plus rapidement possible. Il y a à peu près une trentaine de stands, donc il y aura une trentaine de lignes de vaccination. C'est beaucoup, en tout cas, c'est le maximum de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent.
Cela veut dire 3000 vaccinations par jour avec le sérum Moderna et à destination des plus de 70 ans ou des personnes souffrant de comorbidité. C'est le club de foot de l'OL qui met à disposition un grand bâtiment dans l'enceinte de son stade. Une façon de participer à l'effort collectif, explique son président Jean-Michel Aulas.
On va intervenir sur le plan de la logistique, sur le plan économique, parce que ça a des coûts et c'est nous qui allons les prendre en charge. Et puis aussi pour essayer de sensibiliser tous les bénévoles qui vont nous aider à réussir le maximum de vaccinations. Donc il y a déjà beaucoup de salariés et de partenaires de l'OL qui se sont manifestés. C'est dans l'intérêt de toute la région lyonnaise, mais aussi de la France.
La région lyonnaise où le niveau de la vaccination est inférieur à la moyenne nationale et où le taux d'incidence frôle désormais les 500 cas pour 100 000 habitants. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe.
On note aussi cette promesse hier soir pour les réanimations qui devraient passer de 7 000 à 10 000 lits grâce au renfort d'étudiants, de retraités et du service de santé des armées.
Vous restez avec nous dans un instant. Quel impact psychologique dans une France déjà sonnée par un an de crise?
Et puis Donald Trump qui manque cruellement aux chaînes de télé américaines, en tout cas à leurs audiences.
A tout de suite sur Europe 1, il est 8h07.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 8h09, la suite du journal, François Geffrier.
La fermeture des écoles, c'est aussi un impact direct sur le moral de beaucoup d'enfants. Comme le raconte cette maman, Nadia, dont la petite fille a 7 ans, son école est déjà refermée depuis lundi à cause de plusieurs cas de Covid.
Bien sûr, c'est une catastrophe de fermer les écoles. Les écoles, c'est un lieu de socialisation, c'est un lieu d'apprentissage. Et moi, ma fille l'a très mal vécu l'année dernière. Donc, je veux dire, ça a été des crises, ça a été des angoisses. J'ai une petite fille aujourd'hui qui a peur, qui fait des cauchemars la nuit, qui se mange les doigts, qui a toujours peur de plus revoir ses copains, qui a peur de pas réussir. Elle me parle de son avenir, elle a que 7 ans et demi. Je vais plus à l'école et l'école, on s'arrête tout le temps. Donc voilà. Alors ça, c'est des angoisses qui peuvent arriver normalement à l'adolescence. Et nous, on est confrontés à ça dès l'âge de 7 ans et demi.
Nadia, au micro Europe 1 de Stéphane Frangy.
Plus largement, les annonces successives, les restrictions qui durent, cela préoccupe pour la santé mentale des Français.
Oui, la courbe des dépressions et troubles anxieux est au plus haut, Virginie Salmen, depuis l'automne et elle ne redescend pas.
Effectivement, les passages aux urgences pour dépression ou phase maniaque sont en hausse pour la 4e semaine consécutive. Beaucoup de Français sombrent sans forcément consulter, selon Enguerrand Durosquat, responsable de l'unité santé mentale de Santé publique France.
Si on regarde tout cumulé, c'est à peu près 30% de la population qui souffrirait d'états soit anxieux, soit dépressifs. On a surtout observé une augmentation importante des états dépressifs entre fin septembre et début novembre, c'est-à-dire la rentrée dernière et la rentrée dans le deuxième confinement, et avec des prévalences d'états dépressifs anxieux qui se maintiennent à un niveau élevé.
Parmi les plus vulnérables ces dernières semaines, les jeunes adultes dont la vie sociale est encore en construction, pour le psychologue clinicien Cyril Cossard.
Ce qui me frappe le plus, c'est la déliaison. On va avoir une population qui va être plus atteinte de ceux qui n'étaient pas très insérés ou qui n'avaient pas encore construit leur base et leur structure quotidienne dans les rapports sociaux. On sent que tout le monde perd confiance en tout le monde, en fait. On ne croit plus ce que dit machin, on ne croit plus ce que dit truc, les gouvernements. Et du coup, à force de perdre confiance, en fait, on se déconnecte.
L'enjeu de ces prochaines semaines, c'est de maintenir des relations sociales au téléphone, en plein air, en vidéo, malgré les restrictions.
Virginie Salmen.
8h11 sur Europe 1. Aux États-Unis, un deuxième chèque gigantesque en 2 mois de mandat.
Oui, Joe Biden précise son plan d'investissement de 2000 milliards de dollars dans les transports, l'industrie ou encore les réseaux Internet. Pour financer ces dépenses, le président américain annonce la couleur aux entreprises. Leurs impôts vont augmenter. Les États-Unis, où le départ de Donald Trump de la Maison Blanche a eu un impact inattendu. Un être vous manque et tout est dépeuplé visiblement, puisqu'il ne fait plus la une des journaux et il manque déjà aux médias américains.
Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour.
Alexis, les audiences sont en chute libre depuis son départ.
Oui, un quart de lecteurs en moins pour le Washington Post, moins 45% d'audience pour les prime time de CNN depuis un mois et demi. Malgré des relations très difficiles avec Donald Trump, les médias américains ont perdu leur poule aux œufs d'or. Alors cette chute des audiences n'est pas une surprise pour Victor Picard, il est professeur de communication à l'Université de Pennsylvanie. Trump avait beaucoup de valeur pour les médias, il générait des polémiques, du conflit, des drames. On restait scotché devant nos écrans. Pendant 4 ans, les tweets de Donald Trump ont rythmé l'actualité américaine. Son successeur, Joe Biden, est beaucoup plus discret. Et depuis 2 mois, ce sont les médias conservateurs qui s'en sortent le mieux. Par exemple, Fox News, qui a perdu une toute petite partie de son public. C'est un peu plus facile pour les médias de droite parce qu'ils peuvent juste être dans l'opposition vis-à-vis de Joe Biden, explique Victor Picard. Mais c'est toujours plus compliqué pour les médias progressistes quand un démocrate est au pouvoir. Leur public ne veut pas qu'il soit trop critique. Pour autant, Donald Trump n'a pas totalement disparu. Banni de Twitter, il va créer son propre réseau social dans les prochains mois, une plateforme qui doit totalement redéfinir les règles du jeu, selon un conseiller de l'ancien président.
That's enough. Alexis Guilleux, merci, ça suffit. Depuis New York pour Europe 1. En football, ils n'ont pas brillé, mais ça passe. Victoire 1-0 pour l'équipe de France lors de son 3e match de qualification pour la Coupe du Monde. C'était face à la Bosnie-Herzégovine.
Merci beaucoup François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1, 8h13. Dans quelques secondes, Sonia Mabrouk et son invité, l'épidémiologiste Martin Blachier. À tout de suite.
Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, l'épidémiologiste et médecin en santé publique Martin Blachier.
Bienvenue à vous et bonjour Martin Blachier.
Bonjour.
Avant d'entrer dans les détails des mesures annoncées, l'une des questions fondamentales ce matin est de savoir si ce qui a été annoncé hier par le président peut vraiment permettre de casser les chaînes de contamination, vraiment de freiner le virus.
Ce qui a été annoncé hier, c'est le prolongement de ce qui avait déjà été annoncé précédemment. Moi, j'ai toujours trouvé que ces mesures étaient relativement intelligentes puisqu'elles ciblent les endroits où les gens se contaminent, c'est-à-dire le travail et les gens qui se réunissent chez eux avec des plus larges que le foyer centré sur femmes et enfants. Maintenant, il faut que ce soit respecté. Donc là, je pense qu'il a été dans ce sens-là. Et on voit en Île-de-France que ça commence à infléchir sur les passages aux urgences, les hospitalisations après passage aux urgences et même sur le taux de positivité.
Déjà une inflexion qui est conséquente pour vous ?
Une inflexion, après on verra la pente de la descente, mais en tout cas il y a une inflexion, c'est ce qu'on voulait voir et on l'a vu.
Mais est-ce que ce sont également surtout des mesures, Martin Blachier, qui prennent en compte le niveau d'acceptation des Français ? Est-ce que la dimension psychologique a été selon vous l'une des boussoles du président ?
Moi je pense qu'il y a une réalité qu'il faut que tout le monde comprenne, c'est qu'il n'est pas possible de refaire un confinement strict en France. Et c'est pas possible en Allemagne, c'est pas possible en France. Je crois que les deux dirigeants européens, Angela Merkel et Emmanuel Macron, l'ont compris. Et je crois qu'il faut que tout le monde le comprenne pour qu'on arrête de faire des débats qui sont inutiles, puisque de toute façon, c'est quelque chose qui est impossible.
Tous les débats qu'il y a eu ces derniers jours sont inutiles, ceux qui ont été portés par beaucoup de médecins, de responsables, notamment de la PHP, qui affirmaient qu'il fallait des mesures strictes. C'était des débats inutiles pour vous ?
Le débat sur le confinement strict, il est inutile parce qu'à mon avis, il est totalement impossible. Ça créerait une émeute et les gens n'ont plus les réservoirs psychologiques pour accepter un confinement strict comme celui-là. Donc ce qu'il faut, c'est aller au maximum de ce qu'on peut. On y est quasiment. Ensuite, le débat sur le capacitaire en réanimation, c'est un vrai débat, mais qui est totalement différent.
Ça, on va en parler, mais selon vous, donc, le président n'a pas cédé à ce que l'on appelle, que certains qualifient d'enfermiste ou de confiniste ?
Mais le président n'a pas cédé aussi parce qu'il ne peut pas. C'est-à-dire que personne ne peut aujourd'hui, on peut demander un reconfinement strict, et après, il faut voir si ce sera, ça rentrera dans les faits. Et en fait, ça ne sera pas respecté. Les gens vont essayer de vivre quand même, parce qu'ils ne sont plus en capacité de se confiner aujourd'hui. Ça fait un an, c'est trop long, on ne peut plus confiner la France aujourd'hui.
D'accord, on vous entend. Il y a le respect des mesures, mais il y a aussi l'efficacité. Hier encore, à ce même micro, le professeur Gilbert Doré de la Pitié-Salpêtrière affirmait que la fermeture des écoles était inéluctable, qu'il fallait un confinement très strict, que les réas étaient pleines, que nous sommes dans une situation catastrophique. On a l'impression que vous ne parlez pas du même pays.
Non mais Gilbert Deray, peut-être qu'il faut qu'il sorte de son service de temps en temps. C'est-à-dire que les gens qui demandent un reconfinement strict, soit ils sont trop enfermés dans leur propre champ, c'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a une vie en dehors du service médical dans lequel ils sont, soit ils sont de mauvaise foi. Il y a la moitié des gens qui ont signé cette tribune par exemple, et quand vous creusez un petit peu avec eux, ils disent non mais effectivement un confinement strict c'est impossible. Ce ne serait pas accepté, ce ne serait pas respecté. Donc je pense que c'est un espèce de débat qui est une impasse. Donc il faut sortir de ce débat-là. Et de toute façon, je veux dire, même si les services de réanimation sont pleins à craquer, ce sera impossible de faire un reconfinement. Attends,
vous les appelez à sortir de leur service et eux vous appellent à entrer vous-même dans un service de réanimation. D'ailleurs, la question parfois qui vous est posée, c'est quand avez-vous vu pour la dernière fois un malade, Martin Blachier ?
Mais moi, je suis médecin de santé publique, je ne me suis jamais caché. À partir du moment où vous faites ce choix à l'internat, c'est-à-dire que vous avez fait 6 ans dans les hôpitaux, vous sortez de l'hôpital pour travailler sur la santé des populations. C'est justement parce que je travaille sur la santé des populations que je peux vous dire qu'un reconfinement strict est impossible en France aujourd'hui.
Mais est-ce que vous-même, vous pouvez alors me dire à l'inverse qu'un scénario du tri des patients est un fantasme aujourd'hui, est une invention ?
Je pense que ce n'est pas l'actualité du tout. J'avais dit, l'horizon temporel, si on continuait sur cette trajectoire, ce qui n'est pas le cas puisqu'il y a une inflexion, c'était 30 à 50 jours. Mais je pense qu'il faut trouver d'autres solutions, puisque je vous le dis, pour moi, le confinement strict, il est impossible. Donc moi, j'essaie de rester dans la réalité plutôt que d'aller dans la surenchère et dans l'émotion. De toute façon, ce n'est pas possible. Donc j'essaie de voir ce qu'on peut faire d'autre que ce reconfinement strict.
Mais est-ce que la réalité, ce sont des choix aussi entre patients qui sont déjà en cours, comme certains le disent, que les déprogrammations entraînent des arbitrages cornéliens? Est-ce que c'est ça aussi ce qui est la réalité aujourd'hui?
Comme je vous l'ai dit, moi je travaille sur des chiffres et je travaille chez des gens que j'interroge. Donc je ne suis pas dans les services de réanimation, donc je ne peux pas vous répondre de mon expérience. En tout cas, la plupart des gens que j'ai contactés, j'ai un certain réseau dans le milieu médical quand même, me disent que pas du tout. Et je pense qu'il y a un amalgame qui a été fait entre la déprogrammation et le tri. Il a été fait à dessein pour essayer de mettre une pression. Ça, j'en suis à peu près persuadé.
C'est important ce que vous dites quand vous dites à dessein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu, depuis quelques jours, une pression, presque une forme de chantage qui a été effectuée sur le président de la République.
Mais c'est tout à fait normal. Vous savez, on est dans un pays où c'est notre manière de fonctionnement. C'est-à-dire que chacun essaie de mettre la pression et on voit ça dans différents milieux.
Il y a des malades, il y a des patients. Et le tri des patients, c'est terrible à entendre. C'est insupportable.
Oui, mais c'est le quotidien des médecins. Donc, ils parlent de leur quotidien pour essayer de mettre la pression sur l'exécutif. Ça me paraît pas incroyable, mais il faut voir que c'est une réalité.
On va en parler également de cette réalité, mais sur le rôle politique, selon vous, on entend beaucoup une polémique montante autour de Martin Hirsch, le patron de l'APHP. Certains mettent en avant sa proximité avec Anne Hidalgo et lui prêtent des ambitions politiques. Je vois que ça vous fait sourire derrière le masque.
Non,
pourquoi ?
Mais parce que je n'ai aucune connaissance là-dessus. Je pense effectivement qu'il y a un phénomène APHP qui se voit, qu'on compare, si je faisais un test statistique pour voir le discours des médecins APHP et le discours des autres médecins, il y aurait une différence qui serait largement significative.
Et elle est due à quoi, selon vous ?
Bon, elle est due au fait que la PHP est une unité très organisée, structurée, où ils ont un discours commun, donc ils sont en capacité de se décider ensemble, de mettre la pression, et évidemment que Martin Hirsch n'est pas en dehors de ce stratagème. Et après, encore une fois, moi, il ne me scandalise pas, je comprends, il y a une pression, ils veulent essayer de mettre une pression, mais c'est sûr que le directeur de la PHP ne peut pas être en dehors de ça.
Alors, pression également sur des questions importantes, notamment celle des autotests. C'est l'un des sujets qui est dans le débat public depuis quelque temps, mais on n'en voit pas la couleur. Où sont ces autotests aujourd'hui ?
Elles sont dans les entrepôts, dans les différentes villes de France, en attendant que le ministre de la Santé veuille bien comprendre à un moment, mais je pense qu'il va comprendre, j'espère que ce ne sera pas trop tard, que c'est un moyen de faire que le président de la République pourra tenir sa promesse de réouvrir un peu le pays le 15 mai. Sans ça, c'est impossible.
L'horizon, parce qu'il faut quand même noter que c'est ce qu'on a retenu hier de l'allocution du président le 15 mai, vous dites sans les autotests, impossible.
Avec 20 millions de personnes vaccinées en France, vous ne pouvez pas rouvrir le pays à la dimension de ce que pensent les gens que ça va être. C'est-à-dire, il a dit le 15 mai, les gens se sont dit le 15 mai, on va revivre. C'est possible. C'est possible de faire revivre les Français le 15 mai, mais pas uniquement avec 20 millions de vaccinés. C'est possible si jamais on a un pass sanitaire, si jamais les gens savent utiliser des autotests. On a un mois et demi pour le faire. Ça devrait déjà être en route. Et pour l'instant, on nous parle d'une expérimentation qui débuterait le 15 avril, où les gens iraient se tester eux-mêmes, mais dans les pharmacies, sous l'œil du pharmacien.
Mais pourquoi encore une usine à gaz ? Le 14 mars dernier, Martin Blachier, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, voici ce qu'il disait. Il assurait que les autotests étaient déjà ou bientôt disponibles dès cette semaine en pharmacie ou en supermarché, ajoutant « ça va être très facile à organiser ». Mais où est le problème ?
Mais moi, je suis entièrement d'accord avec Jérôme Salomon, je suis entièrement d'accord avec le président qui semble convaincu de ça, je suis entièrement d'accord avec l'HS qui a donné son accord, je ne suis pas d'accord avec le ministre de la Santé qui bloque, il faut être très clair.
Mais pourquoi bloquerait-il alors que ça peut être un facilitateur pour un horizon le 15 mai ?
Mais il l'a clairement dit, il a été interrogé sur une chaîne concurrente et il a dit que lui, il n'y croyait pas, qu'il pensait que ce n'était pas sûr, qu'il pensait que ça allait créer au contraire des problèmes. Donc voilà, donc il a clairement donné sa position, donc on sait qui bloque aujourd'hui, on sait que c'est lui. Le problème, c'est que c'est en train d'être très développé en Allemagne, que Boris Johnson a signé des énormes contrats pour tester tous les enfants dans les écoles, pour essayer de réouvrir l'Angleterre malgré la vaccination avec ses autotests, et qu'aujourd'hui on a un ministre de la Santé qui en France bloque.
Mais pouvez-nous dire qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce qu'il y a un lobby ? Parce que nous on a du mal à comprendre, le grand public, peut-être ceux qui nous écoutent en ce moment, pourquoi on bloquerait un outil qui nous permettrait de vivre peut-être plus normalement un horizon pas si lointain ?
Écoutez, si on fait un tout petit peu d'analyse, il y a deux possibilités. Soit il ne comprend pas, dans ce cas-là, moi je suis disponible pour aller lui expliquer dans son bureau au ministère de la Santé, il n'y a aucun problème, j'ai plein de slides.
Vous croyez qu'il va vous recevoir, vous, Martin Blachier ?
Je pense qu'il ferait bien, c'est la meilleure chose qu'il aurait à faire, ça lui éviterait de faire une grosse bêtise. Ou l'autre chose, c'est qu'il veut faire plaisir à d'autres personnes en pensant qu'il a des comptes à rendre aux pharmaciens, aux laboratoires d'analyse, qui ont peut-être beaucoup investi. Et moi, ce que je dis dans ce cas-là, qu'il leur fasse un chèque et qu'il ne nous bloque pas le pays uniquement parce qu'il doit quelque chose aux laboratoires d'analyse ou aux pharmaciens. Je pense qu'on a une vraie porte de sortie avec ces autotests et que maintenant, il faut y aller. On n'a pas le choix. Et s'il n'y va pas, il va le regretter dans un mois, je pense, quand au 15 mai, les Français iront devant lui et diront « Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ?»
Le président de la République lit beaucoup, dit-on, les études épidémiologiques, écoute peut-être aussi certainement certains épidémiologistes. Pourquoi ne pas lui écrire directement à ce sujet, vous-même ?
Mais je l'ai fait 3 ou 4 fois,
avec
des
réponse.
Notes extrêmement argumentées. J'ai de manière tout à fait bénévole, hein. J'ai parlé avec tous les industriels qui me disent que les tests sont dans les entrepôts, qui peuvent livrer des dizaines de millions de tests dans les collèges, dans les lycées, dans les entreprises. Tous les gens qui organisent des événements sportifs sont en train de mettre en place des protocoles avec ces autotests, mais rien ne se passe au ministère de la Santé. Honnêtement, c'est le prochain scandale, je pense, de cette crise. Ils misent trop sur le vaccin, c'est bien le vaccin, mais le 15 mai, il n'y aura que 20 millions au mieux de personnes vaccinées. Ils ne pourront pas rouvrir comme les gens attendent qu'ils rouvrent.
Il y a aussi un angle, et pour conclure, Martin Blachier, un angle un peu oublié de cette stratégie de lutte contre l'épidémie, ce sont les traitements. D'ailleurs, le président n'en a pas parlé. Dans les conférences de presse hebdomadaires, on n'en parle pas. Pourquoi, selon vous ?
Bon, déjà parce qu'il faut être très honnête, pour l'instant on n'a pas un arsenal thérapeutique extrêmement convaincant qui permet de changer la donne sur la crise. Il y a des traitements qui vont arriver, aussi bien des traitements antiviraux préventifs qui vont peut-être permettre de limiter les formes hospitalières, on n'a pas les derniers résultats, et puis des anticorps pour les formes graves. Mais en aucun cas, ça va changer pour l'instant la figure de la crise. Évidemment, s'il y avait un traitement qui serait un game changer, comme on dit, on en parlerait beaucoup plus.
Et on note que vous avez dit les autotests, peut-être le prochain scandale.
Je pense, oui. Je suis très sincère quand je dis ça.
Merci en tous les cas, Martin Blachier, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bonne journée à vous, ainsi qu'à nos
Merci
auditeurs.
Beaucoup.
Merci Sonia Mabrouk. Il est 8h26 sur Europe 1. Vous restez avec nous dans quelques petites secondes, évidemment. Marion Calais, un nouveau point sur l'info. Et Laurent Cabrol pour la météo. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h29 sur Europe 1, très bon réveil. Alors nous entrons dans une nouvelle séquence à la maison, les écoles fermées, vous l'avez entendu, on va le rappeler évidemment. Simplement attirer votre attention sur votre rendez-vous avec le docteur Jimmy Mohamed, notre santé. Après le journal qui démarre, les dangers des écrans, comment ne pas s'abîmer les yeux. On va avoir besoin de ces quelques conseils pour les semaines qui viennent. Une bonne nouvelle avec cet apiculteur qui a trouvé un moyen d'éradiquer les frelons asiatiques qui s'attaquent à ses abeilles. Ça c'est notre planète, Fanny Agostini, avant de retrouver bien sûr à 9h moins le quart, Nicolas Canteloup pour la revue de presse. Soyez les bienvenus. Bienvenue sur Europe 1, il est presque 8h30. Un nouveau point sur l'info avec Marion Calais.
Et l'heure est désormais à l'organisation au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui a annoncé la fermeture des crèches et des établissements scolaires pour 3 semaines à partir de mardi prochain. Jean-Gabriel Bourgeois, vous êtes devant l'école Anatole France à Chaville, près de Paris, et vous avez rencontré ce matin des parents, disons, résignés.
Ah oui, c'est le sujet de discussion ce matin devant les grilles de l'école. Des grilles qui seront fermées la semaine prochaine, déplore Aurélia, une maman d'élève.
Ça m'arrange pas trop parce que j'ai un petit peu peur du reconfinement. Mais bon, elle en a pleuré aussi, ça l'a un petit peu attristée, mais on n'a pas le choix en fait.
Plusieurs parents que je crois ce matin sont en effet résignés. Il va falloir gérer, s'inquiète Maïté, et encore une fois à la dernière minute.
Surtout pour l'organisation. En fait, ça va être très très compliqué. J'ai personne dans mon entourage qui pourrait me dépanner parce que bon, on est tous dans la même situation. Et voilà, il faut s'organiser. C'est un peu tard en fait.
Et Dominique, de son côté, elle préfère rester philosophe.
Travailler à la maison avec les enfants la semaine prochaine, faudra s'adapter. Quoi. Bon, c'est déjà une petite semaine la semaine prochaine, donc c'est un moindre mal. Bon, et puis après, il faut s'organiser. De toute façon, on comprend le besoin, donc il faut faire avec.
Une petite semaine, hein, 3 jours, on le rappelle, mardi, jeudi et vendredi en distance pour cette école ici, alors qu'une classe a été fermée pour cause de Covid.
Jean-Gabriel Bourgeois en ligne de Chaville dans les Hauts-de-Seine pour Europe 1. Cours à distance donc pour les élèves la semaine prochaine, vacances ensuite et reprise dès le 26 avril en classe pour les maternelles et les primaires, à distance pour les collégiens et les lycéens qui, eux, retrouveront leurs établissements dès le 3 mai. L'idée pour l'exécutif est de systématiser le télétravail. Les parents qui ne peuvent pas travailler à distance auront droit au chômage partiel. Le mois de mai et ses possibles éclaircies avec des réouvertures progressives envisagées pour les terrasses et les lieux culturels. Progressivement, par ailleurs, la vaccination sera étendue avec une ouverture à tous les adultes volontaires à la mi-juin. En attendant, pour 4 semaines, déplacement limité dans toute la France avec une tolérance annoncée pour ce week-end de Pâques. Un troisième effort demandé donc hier soir par le chef de l'État qui mise aussi sur la mobilisation des services de santé de l'armée, sur les volontaires de la réserve sanitaire ou sur les étudiants en médecine pour permettre l'ouverture d'un peu plus de 2000 nouveaux lits en réanimation pour faire baisser la pression qui pèse sur les hôpitaux. Toutes ces mesures feront l'objet d'un débat et d'un vote aujourd'hui au Parlement. Dans l'actualité de ce jeudi aussi, cette nouvelle cyberattaque qui a visé une entreprise française, Théo Manval. C'est le groupe pharmaceutique et cosmétique Pierre Fabre, basé dans le Tarn, qui a été ciblé.
Oui, plusieurs sites de production et de distribution en Occitanie sont arrêtés depuis hier matin. Les salariés ont ordre de ne pas s'y rendre et de poser un jour de congé. Cette cyberattaque a été détectée dans la nuit de mardi à mercredi en provenance d'Asie, sans plus de précision. Les employés n'ont plus accès qu'à leur boîte mail. Par mesure de sécurité, explique l'un d'eux, tous les logiciels, fichiers partagés ou espaces d'échange ont été fermés. La direction précise que les cosmétiques et médicaments du groupe continuent à être distribués, que tout est fait pour rétablir la situation au plus vite. Mais le retour à la normale pourrait se faire attendre jusqu'au début de semaine prochaine. Pierre Fabre, on le rappelle, c'est le 3e plus gros laboratoire français, 10 000 salariés dans le monde, dont plus de la moitié sur une quinzaine de sites principaux dans l'Hexagone.
Les précisions de Théo Manval pour Europe 1. Un seul et même site lancé aujourd'hui par le gouvernement sur lequel seront disponibles tous les rappels de produits alimentaires. Ce site Rappel Conso, lancé donc aujourd'hui. Et puis, ce résultat, hier soir, pour les Bleus et leur dernier match de qualification pour le Mondial 2022, série de 3 matchs qui s'est terminée donc hier soir par une petite victoire, 1-0 contre la Bosnie. La France tout de même en tête de son groupe.
Merci beaucoup Marion Kelly. Petite victoire. C'est pas
toute
un
petite.
Grand match, mais bon,
l'essentiel est là.
Il paraît que l'important, c'est les 3 points.
Voilà, c'est ça.
Merci Marion Calais. 8h33, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Et quel temps fera-t-il chez vous? Quel temps fera-t-il chez vous aujourd'hui, chers amis? Eh bien, simple, hein, il fera beau partout, excepté quelques petits nuages comme d'habitude. Je vais dire comme d'habitude parce que ça dure depuis maintenant 4-5 jours. Sur les côtes méditerranéennes en particulier, et surtout entre Perpignan et Béziers, sur le golfe du Lion. Alors, les températures, j'essaie de rassembler un maximum de villes pour vous, chers amis. 13 degrés à Béthune, 15 degrés à Cherbourg et Coutances, cet après-midi, hein, 19 à Perpignan et Collioure, 20 degrés à Nice, 21 à Marseille, Lille, Le Havre et Dieppe, à Toulouse et à Castres, 23 degrés, 24 à Dijon, Épinal, Saint-Dié-les-Vosges, à Rethel, Nancy, Clermont, Ferrand, Lyon, Montbrison, dans la Loire, 25 degrés, sur Bordeaux, à Rennes, à Nantes, à Nevers, à Poitiers, à Montmorillon et à Paris, 26 degrés, 27 à Auxerre, Saint-Amand-Montrond, dans le 27 à Bayonne et 28 degrés à Cahors et à Morlaix. En ce qui concerne maintenant la journée de demain, ce sera pratiquement la même chose avec un petit peu plus de nuages, mais l'impression sera moins chaude puisque les températures commenceront à baisser. Samedi, ce n'est pas le soleil qui va manquer, mais il va commencer à faire froid. Dimanche, ça y est, ça plonge.
Regardez, hein, écoutez-le comme ça se dégrade. Là,
il y a des petites gelées, il y aura même des petites gelées sur la moitié nord dimanche.
Et puis
lundi, il pourrait y avoir des chutes de neige à basse altitude. Lundi, c'est vraiment pas une belle journée, hein, je vous le dis tout de suite. Et mardi, mercredi, nous aurons ensuite, tout au long de la semaine, un temps froid qui ne sera pas forcément très très pluvieux ou très neigeux en montagne, mais qui sera dans l'ensemble quand même très froid pour la saison.
Lundi, c'est en altitude la neige.
Oui, 500-600 mètres.
Oui, quand même.
Mais on peut quand même avoir. On peut, c'est pas impossible qu'on en ait en pleine. Hein.
Je le dis à nos auditeurs parce que vous savez, ils sont tous en train de dire ah, Laurent Cabrol, son poisson d'avril. Vous me l'avez dit lundi ou mardi. Je vous garantis que c'est pas un poisson d'avril. Il me l'a dit lundi ou mardi qu'on aurait peut-être de la neige la semaine prochaine.
Je veux pas me pousser du col, mais enfin, il y a 3 semaines, je vous ai dit gardez vos doudounes.
Et je ne l'ai toujours pas rangé.
Ah bon.
J'ai le temps ou pas? Non, j'ai pas. Si, je le prends le temps. Vous savez quoi? J'ai toutes mes affaires d'hiver qui sont dans l'entrée de la maison. Je vais vous envoyer ma femme moi, au téléphone parce que je lui ai dit Cabrol m'a dit de pas les ranger. Donc j'attends.
D'accord.
Merci Laurent Cabrol. 8h36 sur Europe 1. Notre santé avec Jimmy Mohamed.
Fermeture des écoles et renforcement du télétravail sont synonymes d'exposition aux écrans. Je vais essayer de vous donner quelques conseils pour vivre au mieux cette période quelque peu compliquée.
A tout de suite sur Europe 1, il est 8h36.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h37 sur Europe 1. Bonjour docteur.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1, tous les matins, notre santé. Le président a donc annoncé la fermeture des écoles et le renforcement du télétravail. Ces mesures sont synonymes d'exposition aux écrans, notamment chez les enfants.
Oui, c'est vrai qu'il est illusoire de croire que les enfants vont échapper aux écrans. Il faut être très honnête, la vraie vie, elle est souvent un peu plus difficile et compliquée que les bons conseils qu'on peut vous donner ou de certains discours moralisateurs. Alors on peut essayer néanmoins quelques astuces qu'on peut facilement appliquer. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de garder des rythmes de coucher et de lever des enfants autant que possible. Essayez de ne pas trop les décaler et à l'inverse, soyez peut-être un peu plus indulgent avec les adolescents. En ce qui concerne les acquisitions, ce que je vous recommande, c'est de les privilégier plutôt le matin. Le temps de cerveau est plus disponible justement pour les enfants pour apprendre des choses. Et au contraire, l'après-midi, après le repas, essayez justement un temps calme, un temps de repos où ils auront droit de regarder un petit peu les écrans. Mais ce qui est important, c'est de fixer des règles. Fixer dès le départ un espèce de contrat moral qui peut varier avec le temps. Évidemment, on peut être un peu plus souple le week-end qu'en semaine, mais les enfants ont besoin d'un cadre et de le savoir à l'avance et de ne pas négocier une fois qu'on perd patience. Et puis, dernière recommandation pour limiter les écrans, c'est tout simple, mais c'est de sortir les enfants. Ils ont besoin non seulement pour se défouler et pour augmenter leur pression de sommeil et le soir dormir un peu mieux.
Ok, on les sort et on régule. Et du côté des adultes, pardon, parce que Jimmy, c'est plus facile, enfin facile, entre guillemets, avec les enfants, de fixer des règles, mais encore faut-il les respecter nous-mêmes. Quel exemple on donne parfois? Est-ce que vous avez quelques conseils pour mieux gérer cette question-là?
Oui, vous avez raison Mathieu. Alors, le premier conseil, c'est d'accepter de ne pas être des super parents pendant cette période. Pendant un mois, ça va être un peu difficile, mais on a une perspective de revivre un peu mieux. En ce qui concerne les écrans, vous avez raison, il ne faut pas oublier qu'ils vont aussi perturber notre sommeil à nous. Et même si vous avez l'impression de bien dormir malgré une exposition aux écrans, eh bien, si on faisait un enregistrement du sommeil, eh bien, on se rendrait compte que celui-ci est malgré tout perturbé. Donc, donnons le bon exemple, mine de rien, ça ferait du bien à tout le monde. Et puis, n'oubliez pas de vous aménager, vous aussi, un vrai poste de travail avec un écran qui serait plus à hauteur des yeux et pas vers le bas. Ça évitera la contracture des trapèzes qui vous donneront des douleurs musculaires. Et puis, dernier conseil, je vous conseille d'appliquer la règle des 20-20. Toutes les 20 minutes, pendant 20 secondes, faites une petite pause. Ça va reposer votre cerveau, mais aussi vos yeux, car l'exposition aux écrans, eh bien, malheureusement, va finir par tous nous rendre myopes.
Merci beaucoup. Jimmy Mohamed, on va vous retrouver à 15h sans rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1 avec Mélanie Gomez.
Oui, on va parler d'endométriose. Une femme sur 10 est touchée et le délai moyen de diagnostic, c'est 7 ans. Et il existe une application qui permet justement de vous aider à mieux prendre en charge la maladie.
Ça va mieux hein, sur ce domaine-là, l'endométriose, mais 7 ans pour le diagnostic, c'est encore beaucoup. Merci Jimmy Mohamed et c'est à 15h sur Europe 1 tout à l'heure. Notre planète avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un apiculteur breton a inventé un piège astucieux et écologique pour lutter contre la prolifération des frelons asiatiques.
Oui, il fallait que je vous en parle ce matin. Cet apiculteur, en fait, en avait marre que les frelons asiatiques viennent ruiner ses colonies d'abeilles. Et l'année où, où les abeilles ont été décimées, 35 de ses ruches, justement, ont été décimées par les frelons asiatiques sur ses 100 ruches. Eh bien, pour lui, c'est devenu une obsession. Il s'est alors mis à les observer, ces bestioles. Et il s'est aperçu que les reines quittent régulièrement les nids au printemps pour en développer d'autres. Et que sans reines, eh bien, les frelons ne parvenaient pas à s'organiser et finissaient par quitter les environs. Il s'est donc armé d'une imprimante 3D et d'une équipe d'étudiants en plasturgie, attention, pour concevoir un bac, tout simplement, contenant de la cire qui sert d'appât et surtout deux conduits dimensionnés au centième de millimètre près pour capturer uniquement les reines des frelons. Et en s'attaquant à un seul individu, c'est-à-dire à la reine, eh bien c'est toute la colonie de frelons asiatiques qui est perdue. Depuis, cet apiculteur a démarré une entreprise pour exporter ce piège en espérant supplanter les méthodes d'intervention typiques des autorités à base de produits chimiques extrêmement toxiques pour la faune et la flore environnante.
Il faut dire que ce frelon, c'est un véritable fléau.
C'est une vraie calamité. Voilà pourquoi le concours les éradiquer est une invention dans le prestigieux concours l'épine. Le frelon asiatique est juré des abeilles. Il est arrivé en France en 2004 et depuis, son expansion a été terrifiante. Il s'est répandu dans tous les pays voisins de la France à une vitesse folle, avec comme conséquence la chute drastique du nombre d'abeilles, parce que le frelon, il les dévore. Et depuis, les collectivités organisent des interventions curatives pour détruire les nids, mais les frelons ressurgissent tout de même, toujours plus nombreux d'année en année.
Et ces abeilles n'en ont vraiment pas besoin, parce qu'entre la destruction de leurs habitats naturels par les humains, l'utilisation de pesticides dans les cultures, celles-ci sont déjà bien prises en étau.
Et le coup de grâce est apporté par le frelon asiatique, qui est une des nombreuses espèces dites exogènes, c'est-à-dire originaire d'un autre continent qui, une fois déplacé, décime des espèces locales. Le frelon asiatique est arrivé en France à cause d'un simple nid caché dans un porte-conteneur. Le bouleversement des écosystèmes naturels par l'homme et la mondialisation des échanges permettent à des organismes vivants de proliférer là où ils n'auraient jamais dû mettre les pieds. Alors parfois, c'est vrai que ça donne des combinaisons intéressantes, mais souvent, c'est une menace pour la biodiversité.
Merci Fanny Agostini, notre planète tous les matins sur Europe 1. Merci et à demain, 8h43. Dans quelques toutes petites secondes, Nicolas Canteloup et Julie pour la revue de presse.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h46, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. On retrouve Mathieu Béliard pour les infos du jour. Mathieu.
Oui, bonjour Julie, bienvenue sur Europe 1. Europe 1, regarde le monde empiré. Et oui, je crois que ça fait un an que je n'ai pas annoncé une seule bonne nouvelle. Je suis une sorte, vous savez quoi, je suis une sorte de Laurent Cabrol qui annoncerait chaque jour une météo pire que la veille, depuis un an. Ça commence à faire long.
Ouais, comme
allez,
je dis,
l'info du jour. L'info du jour, vous le savez, c'est, on n'est pas dupes, c'est qu'on est le 1er avril, journée où on se met des poissons dans le dos. Mais bon, désormais, avec les distanciations sociales et sanitaires, ça devient plus compliqué de se coller des poissons l'un d'eau. Donc en revanche, c'est la préconisation d'Europe 1. Le Conseil européen, ce matin, on a parlé avec Jimmy Mohamed, c'est de s'envoyer des poissons, des harengs au visage en distance d'1,50 m de distance. Voilà. Ça change un peu, c'est ludique. Et puis, il y a un petit côté Astérix. Voilà. Allez, l'autre info, c'est ces écoles qui ferment, on le sait, les unes après les autres, au-delà des mesures d'Emmanuel Macron. Jean-Michel Blanquer a déclaré que les enfants ne se contaminaient pas à l'école, mais en famille. Il a donc trouvé la solution, Jean-Michel Blanquer. C'est pas les écoles qu'il faut fermer, c'est les familles. Voilà. Allez, on a une pensée au passage avec toutes ces fermetures d'écoles pour Gabriel Matzneff qui est bien triste aujourd'hui. Et ça, c'est pas une blague. Et puis, pour terminer plus léger, je tenais à saluer l'excellent poisson d'avril. C'est hilarant. Merci Laurent. Laurent Cabrol, et oui, qui m'a fait la bise ce matin en me disant... T'inquiète pas, Mathieu, je suis vacciné, on peut s'embrasser. Alors que c'était faux. Voilà.
Oh non.
Ah oui, c'est très très drôle. C'est drôle. Faites-le tous.
Si vous... Non, ne refaites pas ça à la maison. Non.
Ces gestes sont effectués par des professionnels.
Ouais. On risque gros, mais qu'est-ce qu'on rigole.
Merci Mathieu. Le Monde publié cette semaine un papier qui a enflammé les débats. Emmanuel Macron, le président épidémiologiste. On découvre qu'Emmanuel Macron n'écoute plus vraiment les scientifiques, car il a, d'après ses proches, une maîtrise parfaite des travaux épidémiologistes. On va accueillir un de ses proches, Jean-Michel Blanquer.
Bonjour camarade Julie, bonjour. Camarade Béliard, et bonjour à tous les aimables citoyens de notre grande nation. Réjouissez-vous, car notre leader bien-aimé, le petit père des Français, le soleil de la République, vous apporte, oui, une grande nouvelle. Plus aucun domaine de l'épidémiologie ne résistera à son intelligence hors du commun. Oui, nous sommes sauvés.
C'est quand même étonnant, cette communication. Vous avez même dit, le président a acquis une vraie expertise sur les sujets sanitaires. Ce n'est pas un sujet inaccessible pour une intelligence comme la sienne.
Oh, j'écoute cette phrase et je suis tout à fait d'accord avec moi-même. Emmanuel Macron est un être exceptionnel, faut-il le rappeler. Nous avons beaucoup de chance, oui, je le dis, que le 21 décembre 1977, des oiseaux bleus, blancs, rouges, les déposaient au sommet du Mont Blanc et qu'ils soient descendus parmi nous.
Mon Dieu.
Et aujourd'hui, pour nous aider à lutter contre le Covid, il a appris la médecine en 4 semaines. Il faut lui reconnaître... ce travail formidable, il lui a juste fallu un abonnement à Science et Vie Junior et 5 DVD du Dr House.
Non mais les scientifiques.
Oh, eux, vous savez, les scientifiques, S'ils doivent faire 7 ans d'études pour acquérir des compétences qu'Emmanuel Macron a acquis en 3 semaines, c'est que ces scientifiques-là, c'est vraiment des cons.
Ben merci Jean-Michel Blanquer. Édouard Philippe sortira un livre le 7 avril, un livre qui signe un retour médiatique. Hein. Certains voient même, dans cette prise de distance avec Emmanuel Macron, les prémices d'une candidature à la présidentielle.
Vas-y, Nono ! Vas-y, Nono, fume-les tous ! Portons les couleurs du jupéisme !
Ah, là, Juppé, bonjour ! Ah, c'est vrai qu'Édouard Philippe, c'est votre héritier.
Oui, mais écoutez, Édouard, c'est ce dont le pays a besoin, vraiment. Le pays a besoin de rigueur, de rigidité, d'ennui, de chiantisme, de reloutude, le relouitude, même, si vous préférez. Bref, de toutes les valeurs jupéistes. Et vous avez vu comment il est populaire, hein, franchement. Mais les Français, vous savez, ben oui, mais les Français ont toujours aimé se faire chier. Oh. Mais si, les Français adorent les disques de Christine and the Queen. Ils adorent le Téléthon, ils adorent Samuel Etienne, ils adorent les brocantes, ils adorent la ville de Bordeaux. Alors pourquoi pas ne pas adorer Édouard Philippe ?
Non mais soyons sérieux. Selon vous, il a ses chances en 2022.
C'est QMP.
C'est QMP, j'adore. Est-ce qu'il a ses chances en 2022, Édouard Philippe, selon vous ?
Écoutez, certes, le jupéisme, c'est populaire, mais ça prend quand même une branlée à chaque fois. Soyons réalistes et pragmatiques. Mais Doudou, vous savez, Édouard peut casser la mécanique de l'échec. En tout cas, j'y crois.
Alors, vous savez qu'il a monté son micro-parti hein, pour fédérer ses soutiens et recevoir des dons. Sa formation s'appelle Le Havre, avec un point d'exclamation. Le Havre.
Ah, quand même
ouais.
Ah, donc, mon Édouard se prépare à la guerre contre Macron et Le Pen avec un parti qui s'appelle Le Havre, point d'exclamation. Ouais. Bah, écoutez, faire rêver les Français avec Le Havre, point d'exclamation, c'est... Écoutez, c'est... Ok. Attends, je m'adresse à lui tout de même. Édouard, être chiant, c'est bien, mais il ne faut pas être non plus déprimant, angoissant. J'ai dit quoi que j'y croyais à l'instant. Hein. Ouais. Bon, mais peut-être que je suis allé peut-être un peu vite, Mme Julie, M. Gabrol. Il est peut-être aussi jupéiste que moi, finalement. Hein. Vous savez quoi ? Je vais peut-être lui préchauffer un siège au Conseil constitutionnel. Hein. Allez, salut les amis.
Merci Alain Juppé, à bientôt.
À bientôt.
Il a fait acte de sa candidature il y a quelques jours. Xavier Bertrand est candidat à la présidentielle et il croit en son étoile. Bonjour Xavier Bertrand.
Oui, madame. Oui, monsieur Béliard. Je vous le dis ce matin, solennellement, je vais gagner la présidentielle de 2022.
Attendez. Ah oui, d'accord, c'est un poisson d'avril.
Non, madame. Non, je suis très sérieux.
Ah bon ? Mais qu'est-ce qui vous rend aussi confiant en l'avenir, Xavier Bertrand ?
Tout le monde se moque de moi, depuis toujours. Je suis petit, un peu rond. Les autres m'ont toujours jeté des cailloux. Sur le papier, personne ne me respecte et je n'ai aucune chance. Bref,
ah ben dis donc.
Ouvrez les yeux, j'ai le même profil, exactement le même profil que François Hollande.
Attendez, mais vous ne sortez pas avec une actrice célèbre.
Non, oui, c'est vrai, vous avez raison. Est-ce que vous n'auriez pas le 06 de Marion Cotillard?
Attendez, vous pensez avoir une chance avec elle, peut-être?
Vous pensez que j'ai le 06 de Marion Cotillard?
Écoutez, si je pense que j'ai une chance de me faire élire président de la République, pourquoi je ne pourrais pas séduire Marion Cotillard?
Eh ben, c'est pas gagné, hein, merci.
C'est QMP aussi.
C'est QMP.
Sur Twitter, Pierre Ménès a présenté ses excuses sincères aux femmes qu'il a pu blesser. Bonjour Pierre Ménès.
Ouais, bonjour Julie. Bonjour à Sonia Mabrouk, qui est partie. C'est dommage qu'elle soit partie. Parce que c'est une femme. Non, bah, non, elle est super, elle est extraordinaire.
Non, non,
comme Virginie Fulpin,
oui,
c'est une super fille. Bah si, faut le dire, faut dire les choses. Vous avez eu courage de tenir dans cette ambiance de macho, hein, les filles. Hein. Avec un Béliard, avec un Cabrol,
hein,
les deux phallocrates, là, bonjour. Hein. Moi qui suis féministe, je comprends dans quelle ambiance toxique vous travaillez. Hein. J'ai mal à mon égalité des sexes. Hein.
Vous êtes féministe, vous, mais depuis quand ?
Bah, je t'ai déjà répondu depuis 4-5 jours. Voilà. J'apprends vite. Hein. Je déconstruis le patriarcat, cette structure qui opprime tellement les bonnes femmes, les gonzesses, les poufs, mes sœurs oppressées. Oh
là là. D'autant voilà. Que vous êtes aussi la cible d'un article de Mediapart qui révèle également des propos racistes ou homophobes. Vous avez notamment cette théorie. Selon vous, les Noirs ne peuvent pas tirer de pénalty parce qu'ils n'ont pas de mental. Vous vous rendez compte ?
Ouais. Ouais, non, mais ça. C'est.
Quoi ?
C'est parce que c'est sorti de son contexte.
Ouais, c'est ça.
Il a dit quoi, mon avocat, d'ailleurs? Je ne sais plus ce que je dois dire.
Il a dit, je n'ai pas les éléments
de langage, les feuilles, je les avais amenées.
Mais votre avocat a dit ceci. Pierre Ménès, un langage fleuri, très populo. Dans le foot amateur, beaucoup parlent de façon relâchée, sans la compréhension de l'impact et du sens de ces mots. Négro, pédé, gros porc, vous l'entendez souvent, sans volonté de blesser ou d'être insultant. C'est un gentleman agreement.
Voilà.
Fermez les guillemets.
En fait, je suis trop con pour savoir ce que ça veut dire, pédé ou bougnoule. Mais rassure-toi. Non, mais je suis lucide, je comprends. Mais donc, j'ai pris un interprète. Nelson, tu peux me donner un coup de main, Nelson?
Oui, bonjour à tous. Pardonnez-moi, je m'immisce à l'instant. Je sens qu'il y a quelques petites incompréhensions entre vous, rassurez-vous. J'ai fait... sportif de bistrot, deuxième langue, je peux peut-être vous aider.
Ouais, bon, écoute, Nelson, non, je voulais dire que j'ai rien contre les PD ou les métèques, même si c'est pas des gens comme nous. Tu sais, dans une équipe, on a besoin de tout le monde, c'est ça que je voulais dire.
Oui, ma chère Julie, mon cher Mathieu, cher Laurent, ce que Pierre essaye de dire, c'est que nos différences sont une chance, et qu'il s'agisse de nos origines ou de nos orientations amoureuses, mais qu'au fond, nous sommes tous frères devant l'adversité. Voilà.
Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que pour tirer un pénalty, forcément, je préfère un viking un minimum impressionnant à un kirikou éthiopien qui fait 25 kilos.
Oh,
voilà.
Alors,
ce que... Oui, merci Mathieu, merci de la patate chaude. Ce que Pierre essaye de nous dire, c'est trop con, je n'arrive pas à traduire cela. Bon courage à lui pour s'expliquer. À vous les studios, à vous Paris.
Et on salue évidemment les auteurs de Nicolas, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demange, la revue de presse que Nicolas Canteloup et Julie a retrouvée sur Europe 1.fr. 8h56, Philippe Vandel est avec nous, Culture Média, la matinée continue de 9h à 11h. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu, et justement la matinée continue dans Culture Média, on va démarrer avec de la joie. On va oublier le confinement et notre info média du jour va s'intéresser à un documentaire très festif qui raconte les nuits parisienne de l'entre-deux-guerres, quand les musicals, les cabarets florissaient, Joséphine Baker, etc. On en parle avec la réalisatrice de ce très beau doc, La nuit est à elle, Paris 1939, elle s'appelle Carole Vrona. Au sommaire également, le comédien Philippe Lelouch, pas pour une nouvelle pièce, mais pour sa nouvelle émission, le retour de Top Gear France. Ça marche tellement bien, ça vous fait marrer que c'est la 7e saison, plus son émission Enchères mécaniques qu'il anime, c'est également sur MC Découverte. Il est très 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 remonté contre les maires qui bloquent le centre-ville aux voitures, et pas seulement. Et puis, notre invitée a deux casquettes, elle est neurologue et elle est romancière. Elle s'appelle Sophie Talmen, elle va nous présenter son nouveau roman Là où le bonheur se respire. Ça se passe toujours à l'hôpital. Elle vend énormément de livres, elle vend des best-sellers, genre 100 000 pour le premier, et elle continue de travailler comme neurologue en hôpital. On lui parlera évidemment des urgences également.
Culture Média de 9h à 11h avec Philippe Vandel et avec toute son équipe, bien sûr. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute d'Europe 1. Je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.